Alors, bonjour à tous. On vous accueille aujourd'hui pour inaugurer cette semaine de la presse et des médias à l'école. Est-ce que vous êtes au courant de ce que c'est la semaine de la presse et des médias ? Non ? Personne n'a jamais travaillé sur la presse au mois de mars au CDI ou avec ses profs ? Si vous dites non, vous mentez. Alors, on va vous présenter un travail qu'on a réalisé avec, que les élèves de première ES ont réalisé dans le cadre de l'accompagnement personnalisé. Donc ils vont se présenter dans un premier temps, ils vont présenter ce qu'ils ont fait, leur travail, et ensuite on fera une table ronde avec les élèves de première ES et première L qui ont travaillé avec nous pendant 4 heures sur la notion de média et de média citoyen. N'hésitez pas à prendre part au débat, à poser des questions même pendant les interventions, et bonne conférence à vous.
Alors bonjour, je suis Lorraine Krangic, je suis en première ES. Après on a Dorine Gilles, Jordan Boel et Ornella Bernuzzi qui sont aussi en première ES. Donc on a travaillé pendant 2 semaines d'AP, donc 2 séances d'AP, soit à peu près 12 heures, pour réaliser un reportage intitulé « Sac à dos ». En compagnie avec l'aide de Charlotte. Donc, première question, pourquoi avoir choisi le support vidéo ?
Moi, je voudrais bien saluer déjà leur courage parce qu'ils ont pris, ils ont été courageux de s'exposer et de se mettre devant la caméra. Donc, je pense qu'on peut les applaudir déjà pour ça. Et voilà. Saluer leur courage. Et puis du coup, je vous invite à avoir un regard bienveillant. Voilà, c'est pas des professionnels, on n'a pas de maquilleuse, de coiffeuse, si, ben voilà. Donc, ayez un regard bienveillant et puis jugez pas, enfin voilà, allez au-delà de ça et concentrez-vous peut-être sur le propos. Voilà.
Salut.
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 C'est la semaine de la presse.
On parle de médias.
Mais c'est quoi un média ?
Mais c'est quoi un média ?
C'est un outil, un support
qui permet de faire passer un message.
Une idée.
Une information.
Rester informé, c'est important.
Pourquoi ?
Pour partager, être cultivé, pouvoir s'engager et rester maître de ses pensées.
Nous avons décidé de créer notre média, un média citoyen.
Au cœur de notre lycée.
Le lycée Louis Berthier, ça s'appelle Sac à dos.
Ça s'appelle Sac à dos.
Dans un monde entouré, ne pas rester de côté parce que, par exemple, si un groupe va parler de ceci et cela et que nous, on n'est pas au courant parce que, justement, on n'a pas été informé par les médias, c'est vrai qu'on va être de côté. Donc, du coup, ce sera toujours des camps. Et c'est les médias, ça nous relie, quoi. Genre, on apprend vraiment plein de trucs. C'est intéressant, je trouve.
C'est bien de se renseigner, quoi. C'est quand même... c'est la société, voilà. On a besoin de savoir ce qui se passe autour de nous et les événements qui arrivent, que des fois ça peut, des fois ça nous concerne, donc faut savoir quoi, c'est important.
J'étais en train de faire une interview pour un tournage, pour créer un journal.
C'est important de sensibiliser les jeunes aux médias parce que c'est important qu'ils s'emparent un peu des informations et qu'ils les mettent à leur sauce et que ça apporte quelque chose en plus.
Au programme.
La radio du lycée.
3 astuces pour vous préparer aux examens.
Sac à dos.
Salut, moi c'est Amélia, je suis en 5e C au collège Jean Maumus et j'adore la musique.
Bonjour, je m'appelle Marine Corzin, j'ai 12 ans, je suis en 5e C au collège Jean Maumus et j'adore la natation.
On est arrivé, On a commencé par proposer quelques sujets. Après, on s'est mis un petit peu d'accord. On s'est dit les rôles. Il y a le chroniqueur, il y a l'invité, le présentateur et le technicien.
Moi, je suis Samuel Lemaire, je suis en service civique au lycée Louis-Bertrand depuis vendredi. Mon rôle, c'est d'animer la web radio du lycée, donc en prenant par groupe de 4, 5 ou 6 maximum des jeunes pendant leur temps d'heure de permanence.
Et aujourd'hui, c'est quoi le sujet dont tu as décidé de parler ?
Les mangas.
Les mangas ? Pourquoi les mangas ?
Parce que c'est y a plein de types différents. Moi, j'aime bien lire et pour faire partager la passion à d'autres personnes.
Enfin, on m'a dit qu'on voulait parler de violence, laïcité. Après, il y en a beaucoup qui veulent parler de jeux vidéo. Donc, après, c'est des sujets qui vont être traités au fur et à mesure dans l'année, donc qui seront mis ensuite sous forme d'émission sur le site.
Trois ingrédients et trois techniques.
Vous auriez trois astuces en tant qu'ancien élève pour avoir son bac.
J'ai 25 ans, bientôt 26. J'ai obtenu mon bac littéraire donc, au lycée Louis-Bertrand. Actuellement, je suis doctorante en sciences du langage et également professeure de français ici dans ce lycée.
Madame Henri, professeure documentaliste au lycée Louis Bertrand.
Je m'appelle Joey, j'ai fait un bac STG, maintenant c'est le bac STMG. Ensuite, j'ai fait le BTS négociation et relations clients à Briey pour aller en fac de droit. Et j'ai maintenant un master 2 en droit.
La première, c'est que moi je travaillais toujours avec ma mère ou avec mon petit frère. Alors mon petit frère avait 4 ans de moins que moi et le soir devant la télévision, devant les dessins animés. Je le forçais à me faire réviser mes cours d'histoire.
Notre technique, déjà, il faut réviser régulièrement.
Faire des fiches de révision, travailler régulièrement, mais travailler avec d'autres aussi. Pas travailler tout le temps tout seul. Voilà. Travailler avec des camarades pour s'entraider, pour se poser des questions.
La deuxième chose, je passais beaucoup de temps à manger du chocolat, surtout du chocolat. Et j'avais l'impression, je ne sais pas pourquoi, que ça fonctionnait bien, que ça faisait marcher correctement ma mémoire.
Est-ce que ça a été une dure épreuve pour vous de passer le bac ? Vous avez eu du mal ?
J'ai pas eu de mal, mais j'étais très 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 stressée.
Il faut essayer de temps en temps, j'essayais quand même de temps en temps de décrocher, et de chanter très fort sous la douche, ou d'aller courir dehors, de faire du sport, d'essayer de m'oxygéner un petit peu, parce que c'est vrai que par moments c'est très très prenant. Mais du coup, j'essayais quand même de voir ce qu'il y avait autour et pas que les études, quoi.
Il faut faire du sport parce que ça permet de se vider la tête. C'est très important même. Et surtout, il faut croire en soi. Je pense que c'est le secret. Parce que si on doute, ça marche pas.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci.
Alors, première question, pourquoi avoir choisi le support vidéo ?
On s'est dit en fait que je pense que c'était plus intéressant. Aujourd'hui, tous les jeunes utilisent vraiment les écrans, les ordinateurs, les téléphones et tout ça. Du coup, par élimination, on s'est dit qu'aujourd'hui, les médias sont très présents pour se renseigner. Donc, c'est mieux pour les jeunes d'avoir un support vidéo qu'un journal ou autre, quoi.
Ensuite, Comment avez-vous établi le sujet ?
Comme on est en première, mais on a pensé aux autres parce que on a tous un examen à passer en fin d'année, on a voulu parler du bac et on s'est dit que c'était important d'aller demander à des personnes qui avaient déjà passé leur bac comment ils avaient fait et des techniques pour être amené à pouvoir passer le bac correctement.
Quels étaient les objectifs de cette vidéo ?
Les objectifs, c'était aider les lycéens. Donc pour les astuces pour le bac, c'était aider les lycéens à réussir leur bac, parce que c'est en première et en terminale, c'est omniprésent, cette idée de est-ce que je vais avoir mon bac ou pas. Du coup, on s'est dit que ça pouvait être utile d'aider les lycéens et en plus, qu'ils aient des avis de personnes qui l'ont déjà eu aussi, parce que on aimerait bien savoir, c'est quoi qui marche, quoi, parce qu'il y en a qui vont donner des informations, mais peut-être que eux, ça a pas marché, ou pour d'autres, ça va moins marcher. Donc, comme il y a eu plusieurs personnes, il y a eu une professeure qui a pu donner son avis, quelqu'un aussi, un élève comme nous, qui a pu donner aussi son point de vue. Et du coup, pour la radio, nous-mêmes, on ne savait pas qu'il y avait une radio. Du coup, on s'est dit que ça pouvait être bien de faire un reportage dessus pour informer les gens qu'il y a une radio et peut-être donner envie aux autres.
Donc, réaliser un projet comme celui-ci doit nécessiter beaucoup d'organisation. Donc, comment vous êtes-vous organisé ?
Charlotte nous a proposé des postes. Donc, Ornella et Chloé étaient les cadreuses. Mélissa, Dorine et Nabila faisaient les journalistes. Charlotte était notre chef et elle a monté la vidéo. Et moi, je me suis occupée du son, mais quand il y avait quelqu'un qui était en difficulté, on allait l'aider. On a aussi créé un groupe sur Snap pour pouvoir discuter autre que le lundi et pouvoir s'envoyer les vidéos. Chaque début de séance, on se réunissait pour pouvoir parler de ce qu'on allait faire pendant les 2 heures à venir.
Avez-vous rencontré des difficultés ?
Oui, c'était assez difficile parce que du coup, personnellement, mon poste était donc journaliste et c'était assez difficile parce que du coup, en tant que journaliste, tu dois poser des questions, tu dois amener la personne à répondre aux questions et il ne faut pas que l'interview dure longtemps. Donc, il faut vraiment couper au moment, il faut reprendre la personne au bon moment. Et on a eu beaucoup de soucis au niveau de la radio parce que du coup, on était tous aussi gênés les uns que l'autre. Donc, il y avait un moment où il y avait des gros blancs, alors on ne savait pas quoi faire. Mais du coup, Charlotte, elle nous a beaucoup aidés, elle nous a repris dans tout ça. Et donc, les difficultés, on les a surpassées, mais c'est vrai que c'était vraiment dur au début.
D'accord. Combien de temps avez-vous pris pour réaliser ce projet ?
On a mis 12 heures, soit 6 séances d'AP, et on a pris quelques minutes pour filmer, rédiger quelques choses de supplémentaires.
Finalement, qu'avez-vous en tiré ?
Là, c'est au niveau de l'expérience, du coup, c'est hyper utile pour nous pour la suite. Surtout, moi, personnellement, j'aimerais faire des études en journalisme. Donc, du coup, avoir cette vidéo, c'est un moyen de montrer, quelque chose qu'on pourra montrer par la suite pour, si on veut, même s'il y a des gens qui veulent entrer dans des grandes écoles, etc., avoir ce genre de choses, de vidéos, ça peut être bien à mettre dans une lettre de motivation ou autre. Et puis, du coup, on a appris plein de choses qui concernent les médias, notamment tout ce qui est plan d'illustration. En fait, moi, je connaissais, mais je savais même pas, je savais pas en réaliser, etc. Donc, moi, j'ai aimé apprendre ça. Donc pour nous tous, c'est une expérience utile et qu'on n'oubliera pas aussi parce que finalement, c'est des années importantes, le lycée, et je trouve que c'est bien de vivre ce genre de choses. Et en plus, on s'est quand même amusé, on a vécu plein de choses intéressantes. Et voilà.
D'accord, merci. Vous avez des questions ?
Après, au niveau du montage, en fait, c'est tout Charlotte qui a fait. Donc, elle qui est journaliste, qui s'y connaît vachement. Donc, on lui doit quand même à elle. Après, c'est quand même elle qui a beaucoup encadré. Donc, je pense que pour la fluidité, c'est clairement elle qui a fait le plus gros, je pense.
Oui, mais il y a des techniques de cadrage.
Oui, les techniques. Tout ce qui est technique, on a fait beaucoup de plans d'illustration. Et en fait, plus on a des plans d'illustration et plus, en fait, justement, on peut avoir cette fluidité, parce que du coup, ça remplit vraiment les moments où on peut avoir des blancs, comme on dit. Et du coup, voilà, je pense que c'est grâce à ces plans d'illustration que ça permet d'avoir quelque chose de très fluide. Alors, un plan d'illustration, c'est bah, par exemple, quand une personne, par exemple, pour la professeure qui a été interviewée, on a filmé la classe. Voilà, entière, ou voilà, on peut aussi filmer quelqu'un qui est en train d'écrire, quelque chose comme ça. C'est des choses qui entourent la scène qu'on va filmer, en fait. Bah, aussi, oui, dans la manière de cadrer, du coup, il y a différents plans qu'on peut avoir. Donc, il y a les plans rapprochés, les plans après, il y a poitrine, ouais, donc, et puis des plans larges aussi, des gros plans, enfin, des plans larges où on a vraiment toute une vue d'ensemble. Et donc, c'est ce qui fait que ces différentes techniques de plans, ça va faire des bons plans d'illustration. Oui. Oui, on a beaucoup appris à ce niveau-là. Oui.
Est-ce que ça a changé votre regard à vous maintenant, face aux médias que vous observez à la télé ou quand vous regardez des reportages, etc. Est-ce que le fait d'avoir fait cet atelier, ça a changé votre regard par rapport à ça?
Oui. Bah, on a... En fait, comme on n'était absolument pas au courant de ce que c'était d'être journaliste, nous, on voyait vraiment ça facile, du genre, ouais, on voit une information, on met ça sur les réseaux et tout. Mais en fait, c'est... On a vraiment vu que c'était difficile parce que du coup, il faut être conforme à la loi, il faut savoir comment informer, comment vraiment bien prendre les bonnes instructions. Les sources aussi, c'est vraiment un grand travail. Donc, c'est vraiment pas facile du tout. Bah, déjà, il faut les droits d'image, oui. Parce que du coup, si on filme quelqu'un contre son gré, bah, on peut avoir les répercussions à côté. Ah oui. Et c'est aussi, bah, du coup, c'est aussi valable pour le portable.
Bah, au niveau de l'angle, en fait, il faut choisir quand on réalise une interview, enfin un reportage ou une interview, il faut d'abord avoir un angle en fait par rapport à nos questions pour pas partir, on va dire, sur n'importe quoi, qu'on reste bien sur l'angle. Et donc là, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut vraiment que nos questions ne soient pas du hors-sujet par rapport à l'angle qu'on veut avoir sur l'interview réalisée.
Bah, du coup, maintenant, c'est quand on regarde sur les reportages qui passent à la télé, ça nous fait penser à ce qu'on a vécu. Et du coup, bah, on se rend vraiment compte que c'est... Enfin, tout ce qu'on a vu, c'est vraiment dans les reportages. Donc du coup, bah, ça nous prouve qu'on n'a pas fait ça pour rien. Parce que du coup, c'est intéressant. On sait comment attirer, enfin, entre parenthèses, attirer. Et du coup, c'est vrai que quand on regarde la télé, ça nous fait toujours penser à ce qu'on a fait. C'est assez drôle d'un côté.
Vous n'avez pas d'autres questions?
Bah, alors, parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui l'avons réalisé. Mais
On lui a expliqué le sujet avant. On a refait l'interview 2 fois. Et chaque interview, ça nous a pris 10 minutes. Donc ça a été rapide. 1 minute 30, je crois.
Oui, et puis là, c'est rien, j'ai envie de dire. Oui, voilà. Non, le travail pour, effectivement, 1 minute 30 d'une vidéo, c'est énorme. Et là, ils étaient tout seuls. Hein, ils étaient à deux, en fait, en interview. Tout ce que vous voyez à la télé, c'est une équipe derrière. Enfin, voilà, c'est une grosse équipe. C'est un minimum de 4 personnes professionnelles qui travaillent. Et voilà, pour un reportage, comme on vient de voir, de 7 minutes... À la télé, voilà, vous avez une grosse équipe derrière et qui travaille, allez, on va dire, sur une bonne semaine dessus, quoi, en fait. Voilà, enfin, minimum. Hein. Voilà. Donc, voilà, c'est, faut se méfier quand on regarde les écrans, on regarde la télé, on pense que c'est tout facile, que les images, tout va de soi. Non, regardez simplement les génériques à la fin des reportages, à la fin des émissions, regardez le nombre de personnes qui travaillent. Donc voilà, vous aurez compris en fait l'investissement que ça demande en fait.
Moi personnellement, je connaissais pas mal de termes en médias. Après, par exemple, rien que le terme de angle, moi je connaissais pas du tout. Et aussi les plans d'illustration, je connaissais pas non plus. Sinon, pour la plupart, je connaissais déjà.
Et puis pour les mots complémentaires, on a eu la visite d'un journaliste qui est à la retraite, qui est venu justement nous expliquer un peu le vocabulaire, ce qui se passait en ce moment dans le monde, tout ça. Et on n'a pas trop besoin non plus d'utiliser du vocabulaire spécifique. Il faut que la plupart des gens nous comprennent. Il nous a parlé de tout, des médias, de la presse écrite. Il a fait le tour de tout.
Bah moi, personnellement, c'est la télé, parce que du coup, les chaînes, pour moi, elles n'ont que des sources sûres. Après, ça peut être des fois Internet, mais bon, là, voilà, c'est plus compliqué, parce qu'on a souvent des fake news, comme on dit, donc c'est des fausses informations. Mais sinon, je privilégie vraiment la télé, pour ma part.
Oui, moi aussi, je privilégie largement la télé, même si des fois, je vais voir sur Internet, mais il faut toujours vérifier que ce soit vraiment vrai, éviter les fake news.
Bah, moi aussi, j'ai la télé, puisque du coup, bah, c'est un écran bah, qu'on voit tout le temps. Et puis, il y a aussi le journal à papier. Et oui, aussi, il y a aussi Internet. Donc, mais bon, après, comme Jordan a dit, il faut faire attention aux fake news. Donc, c'est un peu plus difficile de s'informer sur Internet.
Et vous, qui êtes là, vous vous informez comment ? Alors, on va faire main levée. Alors, qui s'informe par la radio ? Ouais. Qui s'informe à la télé ? Vous regardez le journal télé ? Ouais ? Bah, ça m'étonne parce que ça fait quand même quelques années qu'on pose la question à nos classes. Mais c'est bien, hein ? Qui s'informe par la presse écrite ? Qui lit Le Républicain Lorrain, Le Monde ? Non ? Vous lisez jamais le journal ? Même quand il traîne sur un coin de table à la maison. Et donc, qui s'informe sur les réseaux sociaux ? Alors, qui ne s'informe pas du tout ? Qui ne regarde jamais ? Qui ne s'intéresse absolument pas à l'actualité ? Non, mais levez le doigt, c'est pas grave. D'accord. Alors, vous m'avez un petit peu surpris quand même, parce que finalement, alors vous n'avez pas osé le dire, ou il y en a moins que je ne pensais qui s'informent sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, du coup, donc on vous remercie beaucoup pour votre travail. Vous pourrez continuer. Ils peuvent se mettre là, non ? Devant ? Mettez-vous devant. Vous pouvez quand même répondre aux questions qui vont être posées après. Alors, dans un deuxième temps, on a travaillé avec les élèves de première L, qui sont là, sur la notion de médias en général, et plus précisément de médias citoyens. Donc, on a organisé...
Alors,
on a organisé une petite table ronde. Donc, nous, on va leur poser des questions. Et puis, on aimerait bien que vous réagissiez aussi, tous, hein, pas seulement vos professeurs, et que vous leur posiez des questions aussi. Et puis, Charlotte pourra nous aider aussi à répondre. Nous, on les aidera aussi, le cas échéant, parce qu'ils ont préparé la semaine dernière. Voilà. Parce que les heures d'AP sont découpées de cette façon-là. Alors, déjà, on va vous passer une petite vidéo.
Sur le marché près du collège, il y a deux vendeurs de t-shirts. Le premier stand est toujours bondé. La dame qui les propose est drôle et énergique. L'autre stand est souvent vide. Le commerçant est un très mauvais vendeur. Un jour, Léonard et Cindy ont chacun acheté un t-shirt. Surprise, le vêtement de Léonard, trouvé là où tout le monde s'arrête, était rétréci au bout d'un mois. Celui de Cindy, déniché chez l'autre, était toujours impeccable. Les copains venaient de découvrir une règle qui vaut aussi pour tous les médias. L'audience, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Qu'est-ce que l'audience ? Pour une radio, un site internet ou une télévision, c'est le nombre de personnes qui vous suivent. Et c'est crucial. Si personne ne regarde une télé, elle ne sert à rien. Mais l'audience doit-elle être le seul critère pour juger un média ? Non. On doit aussi prendre en compte la qualité de ses programmes. Est-ce que l'élection de Miss France est la chose la plus géniale qui soit ? Bof. Et pourtant, Léonard, Cindy et beaucoup d'autres la suivent et trouvent ça formidable. A l'inverse, il y a des émissions originales, instructives, qui ne recueillent pas beaucoup d'audience. Le problème, c'est que la plupart des médias sont financés par la publicité. Et ceux qui vendent leurs produits dans les pubs se fichent de la qualité des programmes. Ce qui les intéresse, c'est que les émissions aient beaucoup d'audience pour que leur publicité soit vue. Donc, quand un programme n'attire pas grand monde, il risque d'être retiré parce qu'il ne rapporte pas d'argent. Est-ce que cela veut dire que tout ce qui a de l'audience est mauvais ou que ce qui n'intéresse pas grand monde est forcément formidable ? Non plus. mais à chacun ses responsabilités. Quand une émission est vraiment originale, riche, éducative, ceux qui la fabriquent doivent savoir la mettre en valeur, comme le bon vendeur de t-shirts. Et les directeurs de médias doivent accepter qu'éventuellement l'émission ne soit pas beaucoup suivie au début. Si elle est vraiment bien, elle finira par attirer du monde. Et puis finalement, nous, les téléspectateurs ou lecteurs, l'audience, c'est nous qui la faisons. Alors à nous de savoir ce que nous voulons, l'élection de Miss France toutes les semaines ou des médias un peu plus intéressants. Cette année, le collège fête ses 80 ans. Pour l'occasion, en septembre, Fama et Romain ont imaginé un projet pour l'enseignement moral et civique. Retrouver. Retrouver et filmer les élèves de la...
Alors, première question, qu'est-ce qu'un média ?
Un média, c'est le moyen qu'on utilise pour transmettre l'information. Donc ça peut être, par exemple, quand vous regardez la télé, vous lisez le journal, ou encore, pour certains, vous avez levé la main, vous vous renseignez sur les réseaux sociaux. C'est la manière qu'on a de transmettre l'information, en fait.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler de médias citoyens ?
Alors, un média citoyen, c'est un média engagé qui peut être créé par... par n'importe lequel d'entre nous. Dessus, chaque personne peut relater de ce qu'il voit, entend et le partager. L'individu n'est plus seulement le receveur de l'information, mais aussi les médias.
Pour illustrer un média citoyen, vous connaissez le Bondy Blog ? Non, ça vous dit rien ? Donc c'était une émission sur... je ne sais même plus si elle est encore diffusée sur France 4. Vous pouvez le trouver sur Internet. Vous tapez Bondy Blog, hein, c'est Bondy et puis blog. Et c'est un exemple type de média citoyen, c'est-à-dire qu'il y a un moment dans la presse, dans les médias de l'information, il y a des gens en fait qui se sont pas retrouvés représentés en fait. Ils pensaient que les journalistes en fait ils appartiennent tous un petit peu au même groupe social, ils font tous les mêmes écoles de journalisme, donc ils sont un petit peu formatés. Et puis surtout, il y a des jeunes gens, notamment ceux issus des quartiers populaires, et puis aussi beaucoup aussi maintenant des jeunes qui sont issus des zones rurales en fait, qui se sont dit, en fait, ce qui manque justement au domaine des médias d'information en fait, c'est d'autres regards. Une autre manière de voir les choses, et justement, on manque de diversité, je vais y arriver, sociale. Et du coup, le Bondy Blog, en fait, s'est chargé en fait de former des jeunes qui n'étaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément justement de milieu social privilégié, qui ne sortaient pas de grandes écoles, pour qu'ils deviennent journalistes. Et je vous invite vraiment à aller sur Internet, regarder. En fait, ils interviewent dans un café des grands hommes et femmes politiques et ils y vont pas de main morte, quoi. Ils mettent vraiment les pieds dans le plat, comme on pourrait dire, et c'est vraiment intéressant. Ils ont un regard, un ton, une démarche qui est différente. Et à la base, c'est un média citoyen, c'est-à-dire que à la base, l'engagement, il était... ni idéologique ni politique, mais l'engagement était de dire tout le monde. Enfin, c'est important pour que le monde médiatique reste sain et qu'il y ait assez de pluralisme dans cet univers médiatique, que tout le monde ait le droit d'où qu'il vienne et par rapport à ses à son milieu social en fait, de poser un regard sur le monde. Voilà. Et ça c'est c'est un des meilleurs exemples de médias citoyens, c'est le Bondy Blog. Voilà, vraiment je vous invite à regarder, parce que c'est des jeunes, hein, ils ont entre 17 et 25 ans. Vous connaissez peut-être il y en a deux, c'est Badrou et Mehdi. Vous les connaissez ? ces deux jeunes qui ont une chronique, qui ont eu une chronique sur France Inter, qui écrivent beaucoup, ils ont sorti un livre, ils font des petites vidéos sur le site d'Arte. Badrou et Mehdi donc viennent du Bondi Blog. Et vous, si vous, je vous invite encore une fois vraiment à les regarder. Ils ont vraiment une écriture et un ton vraiment intéressant et différent de ce qu'on peut entendre d'habitude. Voilà.
Alors pour ce qui est des francas de Meurthe et Moselle, on développe des web radios dans les établissements scolaires pour à destination des jeunes. Donc l'objectif, c'est que les jeunes soient acteurs de leurs médias et diffusent l'information. L'information de ce qui se passe autour d'eux. Donc on a un exemple concret d'une web radio ici au lycée Louis Bertrand, donc qui couvre toute la cité scolaire. Et donc on a un groupe de jeunes en fait qui travaillent là-dessus, notamment Nolan qui est juste devant. Je pense qu'il va intervenir après. C'est le président de l'association de la web radio. Voilà, il se cache, mais. Vas-y.
Du coup, je me présente. Je m'appelle Nolan Tavares et je suis le président de la web radio du lycée. Moi, l'année dernière, avec d'autres de mes camarades, on m'a proposé de participer à la radio du lycée. Et en fait, dès que vous avez une heure de permanence ou que vous avez envie de communiquer quelque chose, et ben, vous pouvez venir à la radio et c'est totalement libre d'accès. Vous pouvez. Franchement, parler de tout ce que vous voulez, que ce soit seul ou avec des amis. Et je trouve que c'est un super moyen de pouvoir faire passer un message. Et donc, du coup, on fait notre émission, on fait le montage et ensuite, tout est diffusé sur le site de notre radio.
Voilà. Et c'est aussi le groupe d'élèves de la web radio. C'est aussi un groupe d'élèves qui accompagne les autres dans leur projet de réalisation d'émissions, par exemple. Un exemple, la semaine dernière, cette semaine, moi je vais être présent toute la semaine avec un vrai studio de radio et une antenne pour diffuser en FM. Et du coup, il y a un échange qui a été créé entre l'EREA, c'est l'établissement régional d'enseignement adapté, qui se trouve juste à côté, et des collégiens et des lycéens de la cité scolaire. Et en fait, le groupe de la web radio est venu accompagner et aider les élèves à préparer leur émission. Voilà.
Voilà, et dans le cadre, je rebondis, dans le cadre de la semaine de la presse, donc on a la radio aussi cette semaine, toute la semaine dans la bulle. Donc si vous avez envie de venir voir Adrien et de venir faire une petite émission de radio, même réagir par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, donc vous serez les bienvenus. Donc je vais rebondir sur la notion de médias citoyens. Du coup, il y a une notion dedans qui est la notion d'informer, bien sûr, et de s'engager. Alors, en quoi est-il important de... Alors, puisque, vous voyez, Nolan, il est engagé dans le CVL et dans la radio. Chacun d'entre nous, enfin, toutes ces personnes, les personnes dont a parlé le Bondi Blog, ils sont engagés. Donc, pourquoi est-il important de s'informer et de s'engager ?
Alors ça, je crois que c'est plutôt du côté-là qu'ils ont la réponse.
C'est du côté-là ? Je ne sais plus. Bon, de s'informer. Déjà, pourquoi est-il important de s'informer ? Parce qu'il y a quand même quelques élèves tout à l'heure qui m'ont répondu qu'ils ne s'informaient pas.
C'est important de s'informer parce que déjà, c'est bien de savoir ce qui se passe autour de nous. Ça nous permet de nous forger une opinion et du coup, on peut prendre part au débat sans être exclu, quoi.
Et du coup, sur l'engagement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Les autres, est-ce qu'il y en a qui ont envie de répondre ? Est-ce qu'on peut s'engager dans quelque chose si on n'est pas informé ?
J'ai juste dit pas non. C'est juste... Bah, on ne peut pas s'engager dans quelque chose. Enfin, si on ne sait pas pourquoi on s'engage, je vois pas pourquoi on s'engagerait dans la cause en question. Enfin, c'est logique, quoi. C'est tout.
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont engagés dans des actions, dans des... ou qui ont des médias, qui ont une chaîne YouTube. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont... Alors, il y a un élève, je le sais. Est-ce qu'il y a des élèves qui sont délégués de classe, là, déjà? Tout simplement. Ah bah. Je suis pas délégué de classe. Ah bah oui, j'allais dire mince. Alors, déjà, ça, c'est un engagement d'être délégué de classe. Moi, je connais des élèves qui feraient ça pour rien au monde.
Est-ce que l'engagement, il est forcément lié à une prise de position? Par exemple, est-ce que, par rapport à voilà, l'information, tout ça, est-ce que...
Alors, allez. Alors, nous, on a un élève qui a une chaîne YouTube. Là, il me déteste, mais c'est pas grave. Mais alors, après, c'est pas... C'est humoristique. Tu ressens pas ça comme un engagement?
Alors, viens, explique. On peut regarder. Après, moi,
Je trouve pas que c'est un engagement ce que je fais sur ma chaîne YouTube, puisque je fais avant tout de l'humour sans dénoncer. Et je m'appuie sur des trucs qui se passent dans la vie scolaire comme dans ma vie personnelle. Et je ne cherche pas à créer de débats particuliers dans mes vidéos, donc je pense pas que c'est un engagement ce que je fais sur ma chaîne. Mais arrêtons de parler de ça.
Alors combien t'as d'abonnés? Donc 5000 abonnés. Ça vous impressionne ou pas? Moi, ça m'impressionne. Alors, en quoi c'est un engagement? Est-ce que, selon vous, c'est un engagement ou pas? Même si c'est sur le ton de l'humour, s'il n'y a pas de débat, est-ce que pour vous, c'est un engagement de faire ça?
Ça dépend, parce que... Si on s'engage, c'est que on est déjà informé, parce qu'on va pas s'engager pour une cause qu'on ne veut pas défendre personnellement. Et après, pour créer des débats, il faut quand même avoir envie. Enfin, je sais pas comment dire.
Mais est-ce que l'engagement, c'est forcément un débat?
Non.
Moi je trouve que c'est pas forcément un engagement, parce que on peut prendre part à un débat mais être totalement neutre dans l'histoire, par exemple en avançant le pour et le contre, et sans forcément prendre parti pour un des deux. Donc après c'est selon son point de vue, je pense.
Alors, il y a l'engagement, je pense que vous voyez surtout l'engagement politique, l'engagement...
Juste, pardon, je voudrais savoir combien de temps tu passes pour faire une vidéo YouTube, combien de temps elle dure, une vidéo, et combien de temps tu mets pour faire ça?
Une vidéo d'environ 3 minutes, ça serait un week-end, puisque je peux faire que ça le week-end. Donc, voilà. À la place de faire mon anglais, mais mon histoire, etc. Mon histoire surtout, voilà. Non, je passe tout mon temps là-dessus, sur répondre un petit peu aux commentaires que je reçois, même si je suis pas une star incroyable sur YouTube. Mais je me contente déjà très bien de ce que je fais et de ce que j'ai surtout. Et ça me prend un week-end, donc 2 jours, en faisant vraiment que ça, le tournage, l'écriture, le montage, et ensuite tourner. Pour environ 3 minutes, c'est un format très court que j'utilise. Mais toujours à caractère humoristique.
Alors, est-ce que c'est un engagement ou pas? Voilà quoi.
En fait, l'engagement, c'est pas seulement dire ce qu'on pense. Enfin, en plus, ils disent ce qu'ils pensent, hein, parce que moi, j'ai été regarder quand même ses vidéos. Et... Il dit quand même ce qu'il pense, même si c'est sur le ton de l'humour. Alors l'engagement, c'est pas uniquement donner ses idées politiques, c'est pas uniquement aller pour une cause. Enfin voilà, c'est aussi prendre du temps. Et je pense que voilà, que être délégué de classe, c'est un engagement. Et aller se mettre sur YouTube devant 5000 personnes, c'est un engagement aussi, hein, Madame Ruffinac. Au lieu de faire son histoire géo.
L'engagement aussi, c'est tu vois, juste c'est un engagement culturel, en fait, le fait de dire de prendre le parti de faire rire les autres et de faire rire tes pairs, quoi, ceux qui ont le même âge que toi, tu vois. Ça, c'est un engagement, je trouve. Puis alors, c'est pas, c'est un message, c'est. Ce que j'ai vu, tu parles de l'école en plus dans tes vidéos, apparemment. Enfin.
Ça vous concerne, en fait.
Non ? Tu parles de ce qui concerne la jeunesse, en fait.
En fait, j'aborde des sujets qui sont déroulés des sujets que j'ai vécu. Enfin voilà. Et par exemple, la plus récente où je parle de ma vie scolaire, c'est la réunion parents-professeurs. Et dedans, je caricature un petit peu tous les professeurs que j'ai pu voir là-bas avec mes parents. Pour donner un exemple, le prof qui change de personnalité, qui t'aura taillé. Tout le trimestre et qui finalement fera l'éloge de ton travail à la réunion parents-prof. Donc ça, j'en parle dedans, j'aime bien le dénoncer, mais sans donner de nom, bien sûr, pour pas me faire d'ennemis. Mais voilà, je... mais voilà, après je parle de plein d'autres sujets comme et d'autres sujets finalement, mais j'ai fait des vidéos sur les maths, sur le brevet, bon, qui date un petit peu maintenant, on n'allait pas les voir, mais voilà, c'est si voilà.
Finalement, tu dénonces quand même alors ? Tu disais que tu dénonçais pas tout à l'heure.
Je dénonce pas vraiment, je dis juste que ouais, je dénonce, mais ça reste gentil, c'est pas du clash, c'est gentil. Je donne pas de prénom, je caricature en m'inspirant un petit peu des styles vestimentaires. Donc là encore une fois, je n'ai pas donné de prénom, mais non, madame, je parle pas vous non plus dedans, mais voilà, si ça me fait rire moi, je me dis que je peux le partager et que ça fera sans doute rire d'autres personnes. Et sans doute, il y a plein de gens qui s'identifient à ce que je peux dire, à ce que je fais. Donc ça m'intéresse de partager ça sur YouTube et avec ma communauté. Au plaisir.
Alors moi j'ai une question pour les élèves d'AP, du premier groupe. Est-ce que vous avez eu l'impression, vous, de vous engager quand vous avez fait votre vidéo ?
Oui, du coup, parce que ça a pris du temps quand même. Et à partir du moment où on prend sur notre temps, c'est un engagement. Et du coup, voilà.
Bah oui, du coup, pour nous, on s'est engagé parce qu'on y a mis, on s'y est mis physiquement et mentalement, parce que du coup, c'était une cause qu'on voulait plaider, entre parenthèses, parce que du coup, ça nous portait à cœur et on voulait le faire partager aux autres, et je pense que c'est à peu près ça, s'engager, non ?
Bah, on fait des engagements tous les jours sans le remarquer.
Alors, vous vous êtes engagé en créant des reportages, en filmant, en vous mettant parfois au ras du sol pour interviewer des gens. S'engager, c'est aussi entrer dans une démarche de recherche d'information et de transmission de cette information. Comment vous vous y êtes pris et comment vous... On aborde souvent en ce moment la notion des fake news. Est-ce que vous pouvez déjà rappeler ce que c'est une fake news, les autres peut-être ?
Une fake news, c'est une information qui est postée et qui décrit un événement qui est par exemple faux ou c'est une intox, c'est quelque chose qui a été inventé, comme récemment la mort de Sylvester Stallone qui a été annoncée sur Twitter et qui a été relayée par BFM TV et d'autres médias en ligne. Et elle a été démentie par son frère, je crois. Parlez, s'il vous plaît.
Alors justement, tu dis que... Lucas, tu disais que ça avait été relayé par BFM TV, c'est moi ?
Oui.
BFM TV, c'est quoi ?
C'est une chaîne d'information. Mais parlez aussi.
C'est toi qui as parlé. Tu l'as dit, tiens.
Bah, c'est une chaîne d'information.
C'est une chaîne d'information. Donc, est-ce que c'est un média en continu, effectivement, une chaîne d'info en continu? Est-ce que c'est ce qu'on appelle un média qui peut être fiable?
Et non. Non, mais pas BFM TV, hein, s'il vous plaît. Non, mais enfin, ils abusent, quoi, c'est tout. En fait, il y a une chose, il y a par exemple, je sais pas, un pétard dehors, ça y est, c'est un attentat, quoi, pour eux. Je sais pas, enfin, arrêtez, quoi.
Mais justement, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est... Bah, j'ai l'impression qu'ils recherchent la peur à chaque fois, en fait. Qu'ils...
Oui.
C'est tout.
Mais il y a un exemple concret, justement. BFM a été accusé à un moment donné, hein, il y a eu toute une polémique. À quel moment vous vous souvenez, justement, quand BFM a eu des soucis et a dû rendre compte de l'information qui était diffusée?
Ça, je m'en souviens.
Non? Oui, c'est ça. Je l'entends, là.
Mais parle!
Non, c'est bon, j'ai dit.
Si, bah, tu dis les
trucs. Non, mais on a bah, c'est les attentats, non?
Oui.
Voilà.
Je crois qu'ils ont raconté qu'il y avait eu des cris avec des... qui savaient balancer des noms de prophètes, non? Je sais pas. Enfin, je sais plus. Voilà. Merci de me donner le micro, c'est gentil. Tu le gardes.
Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Non? La question à se poser, c'est quel est l'objectif de l'information? Alors, est-ce que l'information, c'est de faire un scoop, de diffuser avant tout le monde, et donc dans ce cas-là, on est dans la recherche compulsive d'une information instantanée, hein, tout le temps, et sans réfléchir sur les conséquences que ça peut avoir? Ou est-ce que on réfléchit à cette information qui va être transmise, on vérifie si toutes les informations sont justes, hein, sont réelles, se basent sur des sources fiables. Et dans ce cas-là, forcément, ben, ça prend beaucoup plus de temps. C'est la question à se poser.
Ben, en fait, les chaînes comme BFM TV... Leur but, c'est de faire le plus d'audience possible. Donc, ils prennent les sujets qui sont clash, qui vont faire des vues, bah, comme le problème avec les attentats. Et puis, ou même avec Sylvester Stallone, ils savaient qu'il y a tout le monde qui allait regarder, genre, oh mon Dieu, il est mort. Et puis que, bah, finalement, non. Donc, ils ne font pas forcément attention à la véracité du sujet, mais plus à l'audience qu'il va y avoir derrière.
Je trouve qu'à chaque fois qu'il y a une... Ah, je dis ça comme ça, je ne sais pas si ça va être utile, en fait. À chaque fois qu'il y a une annonce de mort qui est démentie, en fait, il meurt pas longtemps après. Donc c'est qu'ils ont... Non, mais ils ont peut-être des informations... Non, mais c'est vrai. Ils ont peut-être... Enfin, il y a des informations qui fuitent, en fait. Voilà, c'est tout.
Alors, j'en reviens juste à BFM. C'est une chaîne d'info, du coup, sont des journalistes, à la base. Est-ce qu'on peut imaginer que les journalistes peuvent donner de temps en temps de fausses informations? Est-ce que ça peut arriver que des journalistes donnent de fausses infos? On a eu l'exemple avec Sylvester Stallone.
Bah, normalement, les journalistes, ils doivent respecter une sorte de charte qui va avec leur métier, dont qu'ils ne doivent pas divulguer de fausses informations. Donc en général, quand ils divulguent de fausses informations, c'est involontaire.
Alors, c'est involontaire, et pourquoi ça arrive en ce moment? On est dans quelle société?
On est dans une société où les informations vont super vite. Enfin, y a Internet, tout ça, et le temps que ce soit relayé, parfois, il n'y a pas le temps d'aller vérifier. Et puis voilà, quoi.
Y a une fake news qui est parue il n'y a pas si longtemps non plus, quand on était en saison de neige. Les gens ont observé la neige de plus près et ont tout simplement dit que c'était de la fausse neige en plastique qui tombait du ciel. Et tout ça a été démenti. Et on va vous montrer ça tout de suite.
Je vais faire un petit test avec la neige qu'on a reçue ces derniers jours. Non seulement la neige, elle ne fond pas, mais elle noircit. Et il y a une sale odeur de plastique. C'est un petit peu bizarre.
C'est de la fausse neige. Tu vois bien là, on est vraiment en franc-maçonnerie.
Smells like burnt fucking rubber.
Mmh.
C'est un petit peu bizarre.
Alors là, on a tiré cette vidéo de la chaîne YouTube du Monde. Donc, du coup, est-ce que c'est à votre avis, elle est fiable ou pas? Allô? Est-ce que la chaîne YouTube du Monde, elle est fiable?
Bah oui, le Monde, c'est fiable. Pourquoi? Bah parce que je sais pas. Bah, ils relaient toujours des infos, enfin des sources, enfin les infos qu'ils relaient, ils sont toujours fiables. Enfin, c'est toujours de vraies infos. C'est toujours recherché, enfin, c'est toujours. Vous voyez? Enfin, je sais pas. Mais...
Alors, Le Monde, c'est un quotidien national, hein, qu'on reçoit d'ailleurs au CDI. Et effectivement, on peut s'appuyer sur leurs articles pour dire que c'est une source fiable. Alors, on a choisi. Bon, cette vidéo pour vous montrer ce que c'était qu'une fake news, et aussi l'objectif c'était de vous montrer un petit peu cette chaîne YouTube, parce que YouTube, je pense que c'est un média que vous utilisez quand même souvent et sur lequel vous pouvez trouver des médias d'information pertinents. Donc du coup alors là il y avait là c'est une vidéo sur les fake news, mais il y a des vidéos sur tous les sujets d'actualité qui sortent, qui sont bien faits, que vous pouvez aller regarder rapidement. D'ailleurs, c'est Marie qui m'a... Enfin, je ne connaissais pas, hein, moi, la chaîne YouTube du Monde, qui m'a montré. Tu peux expliquer un peu, Marie?
C'est en fait un journal, du coup, Le Monde, qui est vraiment connu, qui a créé une sorte de chaîne YouTube où ils font des vidéos de vulgarisation, c'est-à-dire quand... pas très très longtemps, en général 3-4 minutes, là un peu moins. Ils expliquent un sujet d'actualité, donc ça peut être n'importe quoi. Bon là, ils ont démenti la fake news là, qui peut paraître bête, mais bon, il y a quand même des gens qui y croient, donc c'est la preuve que voilà. Mais aussi des choses comme par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a eu encore une énième tuerie aux États-Unis. Bah, ils parlent de pourquoi le lobby des armes aux États-Unis est devenu si puissant. Ou alors, toutes les altercations qu'il y a entre... Kim Jong-un et Trump, des fois, ils parlent pourquoi elles ont lieu. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. Ça peut même être des... On voit à l'écran, par exemple, pourquoi le clavier est en AZERTY. C'est juste des sujets intéressants qui peuvent intéresser tout le monde et parler un peu de tout et n'importe quoi.
Parce qu'on a vu tout à l'heure que vous vous serviez souvent des réseaux sociaux pour vous informer. Qu'est-ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux? Qui est sur les réseaux sociaux?
Je dis tout le monde. Hein.
Tout le monde.
Alors, est-ce que juste des personnes comme vous et moi? Qu'est-ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux quand vous allez vous informer sur les réseaux sociaux? Que des informations qui peuvent provenir de personnes, d'individus?
On y va. Il y a des par exemple là comme les journaux qui ont des pages en fait et ils mettent leur information sur les réseaux sociaux en fait.
Voilà les réseaux sociaux. Alors
dans le public, il y en a combien qui ont un compte Facebook? Il y en a combien qui ont un compte Twitter? Snapchat?
Ils envoient des notes sales.
Instagram? Il y en a combien qui sont abonnés sur tous ces comptes-là à un journal ou à des journalistes ou... okay. Vous êtes abonné depuis que vous avez fait l'AP ou vous étiez déjà abonné avant?
Non, mais c'était juste pour vous dire que si votre moyen de vous informer, c'est les médias sociaux, les réseaux sociaux, après, je le conçois, c'est votre mode de fonctionnement, Mais sachez qu'il n'y a pas seulement vos copains qui sont dessus, quoi. Qu'aujourd'hui, tous les grands médias, Le Monde, Le Figaro, Libé ou l'AFP, ou voilà, sont aussi, diffusent des informations qui, elles, sont du coup, ou Le Républicain Lorrain, diffusent aussi des informations qui, du coup, sont vérifiées et qui sont pertinentes, quoi. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, les élèves, comment peut-on savoir, comment vérifie-t-on une information sur Internet ? Comment on vérifie une information sur Internet ?
C'est Mélissa qui sait ça.
Non, si, c'est toi.
C'est toi.
Déjà, on va avoir sur plusieurs sites. Et si on voit que d'un site à l'autre, c'est pas la même chose, donc on est sûr que l'information est fausse. Après, ce qu'on peut vous conseiller, c'est, comme Madame Henry l'a dit, les agences France Presse. C'est vraiment des sources sûres parce qu'ils ont beaucoup de journalistes. Donc les risques de se tromper sont réduits.
Il faut aussi vérifier la source du site sur lequel on trouve l'information. Vérifier qu'il n'y ait pas trop de fautes d'orthographe, d'incohérence dans le texte, et aussi regarder un petit peu l'esthétique du site et aller sur les sites .gouv, se terminant par .gouv, ce sont des sites un petit peu plus officiels et voilà.
Et vérifier la date aussi.
Et la date, en effet.
Je rajoute maintenant, il y a les médias traditionnels, on dit, hein, comme Le Monde, Libération, Figaro, etc. Ils ont maintenant sur Internet des sites pour décoder l'information. Donc Le Monde, par exemple, il a Décodex. Donc voilà, et régulièrement, donc ils décodent les infos, ils reprennent des fake news et ils expliquent de quelle manière une information qui pouvait avoir, sur le factuel qui pouvait être vrai, en fait, a été complètement détourné. Voilà. Donc, c'est intéressant aussi d'aller vérifier sur ces sites-là. Voilà. Des codex, notamment du Monde ou autre. Vous pouvez vérifier.
Je crois que le lien vers le décodex, c'est toujours sur le NT Place. Je l'avais mis l'année dernière. Je pense qu'il y est toujours. Et normalement, il y a même quelque chose à ajouter sur Firefox, un module complémentaire, voilà, sur Firefox qu'on peut installer. Alors au lycée, c'est un peu compliqué du coup parce que comme on est en réseau, on peut pas l'avoir sur tous les postes, je crois. Mais et même à la maison, vous pouvez le faire. Et du coup, ça, il y a un message qui apparaît ou quand c'est pas un site fiable, quand vous n'êtes pas sur un site fiable. Donc c'est intéressant à utiliser même chez vous. Alors je pense qu'au lycée, c'est un peu compliqué à installer, mais chez vous, c'est... Ouais. En fait, sur vos PC, les lycéens, lycée 4.0, sur vos PC, à vous.
Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à ça ?
Oui. Pensez-vous que la médiatisation de certains sujets comme le terrorisme encourage la criminalité ? Je l'ai trouvé trop bien. Je l'ai trouvé trop bien. Maintenant, vous passez.
Alors, moi, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, justement, qui réfléchissent sur l'impact des images, notamment sur les plus jeunes, et l'impact, de certains films, de certaines informations sur des personnes qui ont commis... des personnes qui pourraient commettre des actes terrorisme, notamment des personnes qui sont fichées S, voilà. Chez Fiches. La principale approche par rapport à ça, ils disent en fait que le fait de voir des films, des choses violentes ou des choses comme ça, ça va pas forcément pousser les jeunes ou les gens fragiles à l'acte, mais ça peut donner un exemple comment faire, en fait. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent, qui ont justement travaillé sur beaucoup de films et qui comparent les scènes de crimes terroristes et les scènes de films. Et ils y voient effectivement beaucoup de similarités. Donc, vraiment, la théorie, ça serait de dire oui, effectivement, dans ce genre, le fait de mettre en avant les actes terroristes dans les infos, de les expliquer, de faire des petits schémas, de comment ils sont procédés. Effectivement, ça pousse pas forcément les gens à l'acte, mais ça peut donner un exemple. Voilà, donc il y a très peu. Mais il faut vraiment réfléchir aussi par rapport à l'info, ce qu'on a un petit peu abordé, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle le sensationnalisme. Pour rebondir sur la petite vidéo qu'on a vue, il y a tout un système, il y a toute une économie derrière l'information. L'information, payer des journalistes, ça coûte très très cher. Donner la possibilité à un journaliste d'aller faire de l'investigation pendant des mois et des mois, ça coûte cher. Et tout ça, il faut le financer. Et c'est ça maintenant le grand problème au niveau des médias. C'est que tout ça coûte très cher et comment on le finance. Et effectivement, par exemple, dans le genre de chaîne d'info continue style BFM, ben oui, effectivement, il faut que les annonceurs, c'est-à-dire les gens qui veulent faire de la publicité, ben, ils se rendent compte qu'on fait de l'audience. Comment on fait de l'audience? Et ben, c'est en parlant de choses un petit peu, d'aller dans le sensationnel, et du coup, ben, voilà, ça marche bien, parce que, et les médias ont tendance à le faire, parce qu'effectivement, il y a toute une économie derrière, quoi, aussi. Même système sur le putaclic sur Internet. Vous connaissez ? Le principe, c'est de donner une fausse info juste pour vous cliquer. Et dès l'instant où vous allez cliquer, ça génère, vous allez sur un site ou vous tombez sur des publicités. Donc tout ça, c'est vraiment c'est marketing, en fait. L'info, le putaclic, c'est juste fait pour vous cliquer. Et voilà, et derrière, il y a tout un système économique qui est généré, de marketing, d'annonces publicitaires. Donc ne vous faites pas avoir, voilà, c'est on a envie de regarder, oui, à la dernière affaire. Mais tout ça, il ne faut pas cliquer, parce que c'est juste pour générer, en fait, tout un système économique, marketing derrière. Voilà. Donc il faut lutter, parce que souvent dans l'info, on essaye un petit peu d'aller vous chercher. Là, dans notre côté sombre, on est curieux, on veut voir des... Bah, des fois, il faut être fort, il faut avoir la volonté de se dire non, je reste en pleine conscience et je ne vais pas aller voir ce genre d'information parce que c'est pas bon. Et on a l'information qu'on mérite, nous disait une journaliste. Voilà, si on consomme de l'info comme ça, eh ben, on n'aura que de l'info comme ça. Le jour où on va consommer de la bonne information, eh ben, on aura une... Si tout le monde se met à consommer de la bonne information, les journalistes seront obligés de faire que de la bonne info, quoi, en gros. Voilà, parce que c'est une économie derrière. Et ça, il faut bien en prendre conscience. Ça coûte cher de faire, du journalisme, en fait, et de faire de l'info.
Dans vos différentes séances d'AP les uns et les autres, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer vraiment un journaliste ou une journaliste ? Vous avez parlé d'un journaliste à la retraite, mais donc il y a Charlotte, si j'ai bien compris ?
Journaliste de formation. Hein. Moi, j'ai travaillé beaucoup ces dernières années justement dans des ateliers avec des jeunes, mais je suis cadreuse de formation, en fait. Je suis technicienne, quoi, en fait.
Alors, je crois que là, il y a une personne dans l'assistance qui prend des notes sur tout ce qui est dit, et de source sûre, je crois savoir que cette personne est journaliste. Alors, il serait peut-être intéressant de pouvoir poser des questions à cette personne.
Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez peut-être nous exposer un peu votre travail et puis votre métier, en quoi ça consiste ? Votre parcours aussi ?
Ouais. Bah, bonjour à tous, moi je m'appelle Jérémy, je suis journaliste au Républicain Lorrain. Donc j'étais venu pour faire un sujet ici, et je me retrouve en plus apparemment intervenant de la conférence. Donc moi bah, je suis localier à l'agence de Brié. Donc bah, après j'ai pas vu toute la conférence, je sais pas de quel type de journalisme vous avez parlé. Là c'est un journalisme assez particulier qui est vraiment sur l'actualité locale, autant des petites actualités que des choses parfois un peu plus, comme, un peu plus importantes. Après voilà, j'avoue que j'avais pas préparé grand chose. Donc je sais pas si vous avez des questions en particulier. Ouais. Il y a pas mal de voix, il n'y a pas de diplôme absolument à avoir pour être journaliste. Il y a un certain nombre d'écoles, donc qui sont souvent soit reconnues par la profession ou pas. Moi, pour revenir sur mon parcours, moi, j'avais fait une prépa lettres, et ensuite une école de journalisme. Mais après, il y a des tas de parcours pour y arriver. Il y a des gens, j'ai beaucoup de collègues qui n'ont pas fait d'études particulières en journalisme, qui ont simplement fait de l'infocom. Il y a des écoles de journalisme, il y a des masters, il y a des tas de voies aujourd'hui pour y arriver. Ouais.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de publier un article avec des fausses informations, enfin que vous avez su plus tard qu'elles étaient fausses ?
Alors moi personnellement non, j'ai jamais eu ce problème. Ça peut arriver. Il y a différentes raisons pour lesquelles ça peut arriver. Soit parce qu'on a voulu être trop rapide, soit tout simplement parce qu'on a pu se faire avoir par une source, même une source assez sûre. Ça arrive régulièrement dans des affaires de faits divers. Alors que l'enquête est encore en cours, on n'est pas encore sûr de tout ce qui se passe pendant l'enquête. Donc oui, ça peut arriver. Il n'y a qu'un moyen, ouais, c'est de vérifier au maximum ses sources pour essayer d'éviter ça. Ouais.
Donc pour vous, il faut prendre le maximum de temps possible pour rédiger un bon article ?
Oui, voilà, c'est parfois compliqué parce qu'on est souvent poussé pour le publier le plus rapidement possible, mais il faut vraiment essayer de prendre le temps, prendre du recul aussi beaucoup. C'est ça qui évite les erreurs la plupart du temps. Ouais. Il y a pas mal de moyens. La plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui nous contactent directement. Alors en local, ça peut être, je sais pas, une personne qui a un problème avec, je sais pas, son bailleur social. C'est le genre de choses qui arrivent régulièrement. Donc souvent, on part de cette personne. Ensuite, on va voir directement la personne qu'elle va mettre en cause. Et là, on va mettre en confrontation les deux témoignages. Après, pour tout ce qui est des faits divers, on peut nous alerter sur tel ou tel fait divers, mais à chaque fois, on va voir soit avec la police, soit avec le procureur, avec les pompiers. Eux, on sait que normalement, les infos qu'ils vont nous donner sont en béton, sont sûres, sont vérifiées. Et voilà. Ah, c'est une question assez complexe. Oui, non, c'est. Alors, dans un pays comme en France, on va plutôt souvent parler d'autocensure, plus que de véritable censure. Moi, personnellement, j'ai jamais vu au Républicain Lorrain quelqu'un appeler pour dire ce papier-là, on ne le passe pas, ça ne se fait pas, en tout cas pas de cette manière-là. Mais parfois, on peut entendre parler, dire, bah, je sais pas, il y a une info un peu sensible sur une entreprise. Se dire que non, on va pas en parler parce que c'est un gros annonceur du journal et que voilà, c'est un peu ça pourrait porter préjudice à la bonne santé du journal et à un de ses clients. Et après, au niveau, par exemple, des politiques, en tout cas dans le journalisme en local. Bon, j'ai jamais vu de véritable cas de censure comme ça, mais c'est plus insidieux que ça. C'est une espèce d'autocensure de la part des journalistes ou de leur chef. Ouais.
Pourquoi vous avez voulu être journaliste ?
Ah, c'est une grande question. Ouais. À la base, c'était vraiment partager l'information. C'est souvent rencontrer des gens. Quand on est journaliste, on rencontre des tas de gens différents. Alors, ça peut aller des lycéens régulièrement, comme j'ai pu voir des grands sportifs, ou même des gens qui ont des tas d'histoires à raconter. J'ai rencontré des alcooliques anonymes, par exemple. Tous les jours, quasiment, on rencontre des gens différents qui nous apportent énormément de choses. Et c'est toujours très intéressant de rapporter leurs histoires. On peut aussi voir les coulisses de certains événements, là où les gens n'ont pas forcément accès. Nous, on peut y aller. Et ça, c'est toujours quelque chose de passionnant, voilà, de pouvoir aller là où les gens ne vont pas, de rencontrer des gens qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer forcément tous les jours. Ouais.
Quelles sont les activités habituelles d'un journaliste avant de rédiger un article ?
Alors déjà, il faut trouver le sujet. C'est souvent difficile, ça peut paraître bête, mais dans des secteurs, voilà, parfois ruraux, avec beaucoup de petits villages, c'est pas toujours facile de trouver de quoi remplir un journal tous les jours. Donc voilà, c'est aller au contact des gens déjà pour trouver des sujets, c'est discuter entre collègues pour aussi trouver des idées. Là, ce matin, avant de venir ici, on avait une réunion, une conférence de rédaction, comme tous les lundis matins, pour déterminer un peu ce qu'on va faire. Et ensuite, il faut trouver les bons contacts, ça peut prendre parfois un peu de temps. Et voilà, il faut creuser. Voilà. Non, généralement, c'est tout seul. On est souvent deux sur un sujet. Il y a un photographe et un rédacteur. Bon, après, ça, c'est deux métiers différents. Mais généralement, ouais, on écrit seul son article. Après, par contre, on le fait souvent relire à un ou plusieurs collègues. De toute manière, il y a toujours la personne qui met en page de journal qui le relit, qui peut poser des questions s'il trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, pour essayer, voilà, d'améliorer l'article. Il faut que ça soit de plus en plus court. On a eu très souvent l'habitude de faire des articles assez longs, et de plus en plus on demande d'écrire court, quelque chose de très ramassé, de dynamique. C'est en tout cas ce qui intéresse le plus les lecteurs. Et la semaine prochaine, je ne sais pas si vous le savez, on va changer de format, passer à un format tabloïd qui sera donc la moitié de ce qu'est le journal aujourd'hui. Et là, ça va vraiment s'en ressentir sur les articles. Il va falloir écrire de plus en plus court. Ouais. J'ai pas bien entendu, pardon. Oui, ça arrive, oui, il y en a, ils ne veulent pas parler. Il y a différentes raisons. Il y a toujours des gens qui sont un peu stressés à l'idée de parler à un journaliste, de voir leurs propos rapportés dans la presse. Il y en a qui n'ont pas envie non plus qu'on parle de certaines informations parce qu'ils considèrent que ça leur ferait, par exemple, de la mauvaise publicité. Ça m'arrivait il n'y a encore pas longtemps. J'étais à Jarny pour parler de la réouverture d'un commerce après des tempêtes qu'il y avait eu en janvier. Il devait rouvrir. Alors tout ce qu'il voulait que je dise, c'est que ça rouvrait et qu'il faisait moins 60%. Je lui expliquais que ça relevait plus de la publicité. Et donc j'ai réussi quand même à le convaincre de me parler un petit peu. Mais voilà, il ne voulait pas parler au début du montant des travaux, du manque à gagner que ça avait représenté pour son entreprise. Voilà, donc soit on arrive à les convaincre, soit on passe à autre chose et on voit avec quelqu'un d'autre.
C'est quoi les autres métiers du journaliste? Enfin, je veux dire que vous êtes journaliste aujourd'hui, vous écrivez des articles, mais si dans le domaine de la presse, vous voulez vous orienter dans autre chose, un jour, ce serait vers quoi?
Bah, il y a pas mal d'autres métiers. Déjà, il y a dans le journaliste, il y a en plus du rédacteur simple, on a encore des photoreporters, même si on a de moins en moins. Il y a aussi les gens qui sont secrétaires de rédaction, qui sont des journalistes aussi à part entière, donc qui montent le journal, qui relisent les papiers, qui les améliorent quand ils peuvent. Et après, il y a différentes branches, que ce soit à la télévision, à la radio et même maintenant surtout sur le web. Mais au final, ça reste toujours quand même globalement le même métier, c'est rapporter l'information, quelle qu'elle soit. Ouais.
Pensez-vous que les réseaux sociaux font baisser l'audience des journaux télé ou papier?
C'est assez compliqué, on a un peu de mal à savoir avec ça, on a encore beaucoup... On tâtonne encore beaucoup dans la presse sur ce genre de sujet. Nous, on utilise énormément Facebook, de plus en plus, pour partager les papiers, essayer de créer une communauté comme le font des tas d'entreprises. Après, je ne saurais pas dire vraiment si Facebook ou Twitter, ça a forcément remplacé en partie le journaliste traditionnel, mais c'est aussi des outils que nous, on peut utiliser pour augmenter notre audience à notre tour. Ouais.
Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de rapporter les informations, enfin les paroles d'une personne, et que, enfin, en la déformant un peu du coup avec votre point de vue, et que la personne s'en trouve mécontente et qu'elle proteste, quoi, qu'elle conteste ce que vous avez écrit?
Oui, ça peut arriver. Alors après, il y a différentes manières. Souvent la personne ne s'est pas forcément rendue compte de ce qu'elle a pu dire aussi. Et après, il y a le problème de la déformation de la part du journaliste. Donc à ce moment-là, si vraiment il y a eu une grosse erreur, on lui donne de nouveau la parole pour de nouveau s'expliquer. Et après, si vraiment c'est elle qui s'est pas forcément rendu compte de la proportion de ses propos, on essaie de trouver un terrain d'entente avec elle. Et généralement, s'il y a vraiment un problème, elle a un droit de réponse pour pouvoir s'expliquer à nouveau, expliquer que nous, on a fait une erreur. Ouais.
Est-ce que le journaliste est objectif?
Je pense que non, il ne peut pas l'être. On essaye toujours de tendre vers une certaine objectivité, mais on ne pourra jamais l'être. C'est, comment dire? Oui, il faut vraiment essayer d'être le plus neutre possible, mais forcément, on est tous des citoyens, on a tous nos propres idées, donc on ne peut jamais être totalement objectif. Le but, c'est d'être le plus honnête, je pense, intellectuellement dans sa démarche.
Le journaliste est un peu garant d'une certaine liberté d'expression, mais dans certains pays, ça passe moins. Bon, ils se font enfermer, ils vont en prison. Et est-ce que justement les journalistes qui sont emprisonnés à l'étranger créent une peur qui empêche certaines personnes qui voudraient être journalistes de base d'être journalistes, ou alors ça les encourage? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que ça peut créer une certaine peur, en tout cas dans ces pays-là forcément, oui. Après ça peut aussi même bloquer certains journalistes français qui voudraient aller dans certains pays pour parler de tel ou tel sujet. Je pense que ça peut, ça peut provoquer une peur, en tout cas les bloquer. Les empêcher de se rendre dans tel ou tel pays. Ouais. Oui, non, il y a vraiment une différence de génération. En gros, le journal papier, on va pas se mentir, il est acheté par des vieux, par des retraités. Une fois, j'avais vu un chiffre qui était intéressant. On a un de nos désabonnements sur 7 qui est dû parce que la personne elle est décédée. Ça vous donne déjà quand même une idée de l'âge de nos lecteurs. Et effectivement, c'est pour ça que nous aujourd'hui on va de plus en plus sur le web, parce que les jeunes n'achètent plus la presse papier. Même moi, qui suis de moins en moins jeune, mais quand même encore un petit peu, je l'achète quasiment pas. Je la regarde essentiellement sur Internet. Et on a vraiment besoin d'aller dans sur ces médias-là, sur le numérique, pour attirer des nouveaux lecteurs, parce que nos ventes papier baissent de plus en plus. On a de moins en moins de lecteurs sur le papier. Donc oui, il faut vraiment maintenant qu'on aille sur Internet et qu'on utilise des outils comme Facebook, Twitter, ou même Instagram ou Snapchat, même si bon, Répu, on ne le fait pas, pour attirer de nouveaux lecteurs plus jeunes et oui, trouver...
Pourquoi vous avez choisi de travailler à Briey? Parce que c'est un peu répétitif quand même. Enfin, il ne se passe pas énormément de trucs, quoi.
Non, mais j'ai l'habitude de bouger. J'ai fait à peu près toutes les agences du Répu. Donc il y en a 7 ou 8. Briey jusqu'à Sarrebourg. Donc ouais, j'ai pris l'habitude de bouger, donc moi ça m'a jamais gêné pour le moment. Peut-être qu'à un moment j'en aurais marre, mais pour l'instant non, ça me gêne pas de passer comme ça d'une agence à l'autre. C'est aussi une richesse de passer comme ça, de voir des choses différentes. Justement, il n'y a pas cet ennui de rester tout le temps dans la même agence, surtout quand il n'y a pas forcément énormément d'actualité. Ouais.
Une dernière question? Donc, Marie.
Quand on achète un journal, bon, c'est normal, c'est pour rémunérer sa création, mais du coup, ça fait en quelque sorte en sorte que l'information, elle est payante. Et il y a certaines personnes qui disent que pour que l'information elle soit accessible, ce serait mieux qu'elle soit gratuite, en fait. Vous pensez quoi, vous, de ça?
C'est sûr que dans le meilleur des mondes, il faudrait que effectivement l'information soit gratuite, accessible à tous. Mais effectivement, derrière les coûts d'un journal, bon, il faut payer les journalistes, il y a tout un tas de coûts, comme dans n'importe quelle entreprise. Donc on a toujours eu besoin de financer, c'est un grand problème de toute manière de savoir comment financer la presse, soit par l'achat, soit par la pub, soit par des fois des donateurs, comme le font certains sites aujourd'hui. On n'a pas trouvé de modèle parfait pour le moment, parce que le problème, c'est que chaque manière de financer l'information a ses avantages et ses inconvénients. Alors effectivement, s'il y a un prix, tout le monde ne peut pas l'acheter. S'il n'y a que des pubs, ça pose un problème. S'il n'est que financé par la pub, ça pose un problème d'indépendance par rapport à la rédaction. Donc oui, il faut trouver, faut toujours trouver un juste milieu entre tout ça. Mais pour le moment, oui, c'est un mal nécessaire, on va dire, de passer par... de devoir acheter le journal.
Bien, ben, on vous remercie en tout cas de votre participation à notre conférence, de façon un petit peu impromptue. Merci à tous, alors à tous qui êtes venus, à vos professeurs qui vous ont amenés vers nous. Et puis merci aux élèves, alors aux élèves d'AP depuis la semaine dernière. Et puis à vous les élèves qui avaient fait de la vidéo, à Charlotte qui est venue les épauler, et Imagest qui nous a permis de monter ce projet. Merci à tous.